Bonjour à tous. Bienvenue sur Glissando, votre émission de musique classique et pas que. Et on est sur Radio Graphite. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous dire, je suis allée dernièrement au Théâtre Impérial voir Hansel et Gretel. Et j'ai trouvé ça formidable. Vous connaissez certainement tous ce conte de Grimm que l'on raconte aux enfants. Eh bien, c'est un certain Engelbert Humperdinck, il faut prendre son élan pour prononcer le nom de ce compositeur, il en a fait un opéra. C'est en fait une aventure à la fois effrayante et merveilleuse, puisqu'il est question de misère, de famine, d'abandon, de rapt d'enfants, de cannibalisme, vous vous rendez compte, tout ça. Mais qui était Engelbert Humperdinck? Eh bien, c'était un compositeur allemand, né en 1854 en Rhénanie, près de Bonn. Il avait un père enseignant et une mère choriste. Il a commencé le piano à 7 ans, puis il est rentré au conservatoire de Cologne, où il était l'élève de Ferdinand Hiller, pianiste et compositeur qui était un grand ami de Berlioz. Il poursuit ensuite ses études à Munich. Il a remporté plusieurs prix et bourses et il entame une carrière de pédagogue. Sa rencontre à Naples avec un certain Wagner, grand compositeur, est alors déterminante. Il devient d'ailleurs son assistant à Bayreuth pour Pastifal, donc pour le festival de Bayreuth. Au début de sa carrière, pourtant, Humperdinck est professeur de composition au Conservatoire de Barcelone. Il exercera d'ailleurs la même fonction plus tard à l'Académie de Berlin pendant ses 20 dernières années. Il aura ainsi formé de nombreux élèves, dont de grands compositeurs et chefs d'orchestre. Revenons à son œuvre, Hänsel et Gretel. C'est créé à Weimar par Richard Strauss à la baguette la veille de Noël 1893. C'est tout de suite un triomphe. La richesse orchestrale et la forme du lied associée à des chants populaires réussissent à donner un caractère très séduisant à l'œuvre, qui n'a guère d'équivalent dans l'art lyrique, hormis L'enfant et les sortilèges de Ravel qui était composé en 1925. Reprise dans plusieurs villes allemandes, puis à Londres, New York, Milan, Paris, sous la direction des plus grands chefs d'orchestre, cette œuvre connaîtra un destin international. De plus en plus de scènes internationales, d'ailleurs, programment cet opéra aujourd'hui, pendant la période de Noël. L'histoire. Il était une fois deux enfants, Hänsel et Gretel, frères et sœurs, qui chantent et dansent pour essayer d'oublier, qu'ils ont faim. Un jour, leur mère les envoie cueillir des fraises dans la forêt, mais à la tombée de la nuit, voilà pas qu'ils finissent par se perdre. Ils ont peur et ils finissent par s'endormir. Alors je vous propose tout de suite l'ouverture, l'introduction de cette œuvre superbe.
Thank you.
Donc vous avez bien compris que jusqu'à présent, tout allait bien. Hansel et Gretel étaient dans la forêt. Bon, ils se sont perdus, c'est sûr que ça, c'est pas terrible. Hein, ils cherchaient des fraises, mais ils n'ont pas trouvé, des fraises des bois, bien sûr. Et bon, ils ont fini par s'endormir. Mais à leur réveil, ils voient une maison de pain d'épices. Et puis comme ils ont faim, ils commencent à la grignoter. Ah, mais la sorcière qui est là va les capturer. Alors, elle enferme le garçon dans un cagibi pour l'engraisser, pouvoir le manger après. Et elle force Gretel, sa sœur, à l'aider dans ses travaux ménagers. Heureusement, à un moment donné, la sorcière demande à Gretel de regarder si le pain d'épices qu'elle a mis au four est cuit. Gretel, qui est maligne, fait mine de ne pas savoir et demande à la sorcière de lui montrer comment il faut faire. Et du coup, le petit garçon qui a réussi à sortir de sa petite cage, les enfants en profitent pour pousser la sorcière dans le four et fermer la porte. Ainsi, la sorcière brûle, elle aura disparu et les enfants seront sains et saufs. Les parents des enfants arrivent parce que, bien sûr, ils étaient inquiets de ne pas les voir. Donc, ils ont accouru dans la forêt, ils ont trouvé la maison et ils retrouvent avec bonheur leurs enfants. Ils chantent tous alors, lorsque le désespoir monte au ciel, le Seigneur Dieu tend une main secourable. Alors on va les rejoindre un petit peu pour ce final de Hansel et Gretel de compositeur allemand Engelbert Humperdinck.
Thank you. Venezia. Das Wunderan, wie die Hexe hexen kann, wie sie hart, knusperhart, Sehnen und zum Tode
hart. Schaut das Wunder an, wie die Hexe hexen kann, wie sie hart, knusperhart, Sehnen und zum Tode hart.
Merkt es ihm im Strafgericht, diese Werke dauern nicht, wenn die Not auf Füße steigt, Gott, der Herr, sich gnädig zu uns neigt. Ja, wenn die Not aufs Höchste steigt, Gott, der Herr, dir uns
Eh bien voilà, c'était le final justement de ce magnifique opéra, je dirais, de ce compositeur Engelbert Humperdinck. Alors c'est vrai que quand on le voit en plus dans une salle de théâtre, c'est drôle. Là, vous avez juste le son et je vous conseille un jour d'aller le voir en vrai parce que c'est vraiment très très drôle. Donc toute la famille, voilà, s'est retrouvée. On est content. Les enfants sont sains et saufs. Mais en fin de compte, ça nous montre que cet opéra, cette histoire, eh bien, c'est un rêve qui devient un cauchemar. Ou un paradis qui devient un enfer. Voilà, celui qui veut manger, en fait, se trouve mangé. Et nous avons eu cette magnifique version orchestrale avec l'orchestre de la radio de Munich. Alors, on était dans la forêt, et je me disais, on pourrait chanter « Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle queue, voilà, ira les ramasser. » Eh bien, cette ronde enfantine française, elle a été créée à Noël 1753 par Madame de Pompadour pour les enfants du village voisin, après que Louis XV lui eut offert l'hôtel d'Evreux qui deviendra le palais de l'Élysée. Alors, il faut dire que la comptine pour enfants « Nous n'irons plus au bois » en fait a un sens caché et pamphlétaire qui ne s'adresse pas qu'aux enfants. C'est un peu comme ça aussi, vous savez, pour les fables de La Fontaine. C'est pour les enfants, mais en fait, quand on creuse vraiment, on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de choses à dire pour les adultes aussi. En effet, cette chanson « Nous n'irons plus au bois » dénonce de façon détournée l'interdiction des maisons de prostitution pendant une partie du règne de Louis XIV. Sous l'influence de Madame de Maintenon, et face à une épidémie de maladies vénériennes, le roi a alors signé l'ordonnance du 20 avril 1684 qui renforce les pouvoirs de la police et instaure le délit de prostitution. Les maisons de passe arboraient une branche de laurier au-dessus de la porte, ce qui explique le début de la chanson « Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés ». Alors je vous propose maintenant une œuvre tout en douceur d'un certain Schubert, donc compositeur né à Vienne, mort aussi, assez jeune d'ailleurs. Et Schubert, il a tout du mythe de l'artiste romantique. C'était un génie précoce. Il est mort prématurément. Il n'avait pas beaucoup d'argent. C'était quelqu'un de très mélancolique, triste. On a souvent voulu voir en lui un être incompris et malheureux. C'était oublier le soutien heureusement indéfectible de ses amis et l'atmosphère joyeuse des Schubertiades, les Schubertiades qui étaient en fait des rendez-vous entre amis musiciens pour faire de la musique de chambre, hein, entre eux ou devant aussi du public. Né mort dans la très musicale ville de Vienne, Schubert a écrit pour tous les genres, sauf le concerto. Il excelle particulièrement dans le lied, donc c'est-à-dire avec chant, pour les pièces de piano et la musique de chambre. L'œuvre que nous allons écouter maintenant fut écrite en hiver 1824 pour Vincent Schuster, qui voulait une œuvre substantielle pour jouer à l'arpeggione. L'arpeggione, c'était un instrument, je dirais, hybride. C'est un croisement entre la guitare et la viole de gambe. C'est la viole de gambe, c'est un peu comme un violoncelle, voilà, mais façon ancienne, un instrument à 6 cordes, et donc l'arpeggione, du coup, n'a pas réussi en fait à s'imposer. Alors je voulais vous trouver cette œuvre-là pour aussi entendre un petit peu de guitare, voilà, parce qu'il n'y a pas de raison, il faut qu'on entende un peu tous les instruments, du chant, comme vous avez eu avant avec l'orchestre symphonique. Mais là, c'est une sonate jouée pour violon et guitare, donc l'arpeggione, qui est de Franz Schubert, et nous allons en entendre le premier mouvement, un allegro moderato.
Thank you.
C'était l'Arpeggion, sonate en la mineur de Schubert, pour violon et guitare. Au violon, c'était Gilles Schaam et la guitare Göran Schölzner, qui en fait a fait cet arrangement pour les deux instruments. Comme vous le savez, nous sommes au printemps. Et je vous emmène écouter des images. Écouter des images, je vais me dire, quelle drôle d'expression. Eh bien oui, parce que Claude Debussy, qui était un grand compositeur français, disait « J'aime presque autant les images que la musique ». Mais qui est Debussy ? Il est né en août 1862 à Saint-Germain-en-Laye dans une famille modeste et c'est l'aîné de 5 enfants. Il est entré au Conservatoire de Paris à 10 ans pour suivre des études de piano, mais il voulait devenir compositeur. Il est alors très attiré aussi par les autres arts, notamment la poésie et la peinture. Il a d'ailleurs écrit de nombreuses mélodies sur des poèmes et sa musique est souvent comparée au mouvement pictural impressionniste. Il s'inspire de nouvelles sonorités, notamment de celles de la musique russe et des musiques extra-européennes qu'il a découvertes à l'exposition universelle de 1889. Son œuvre la plus importante est certainement l'opéra Péléas et Mélisande, qui l'occupe presque entièrement pendant de nombreuses années et qui lui vaudra la reconnaissance de son talent et surtout de son originalité. Il connaît une intense période créatrice après 1902, autant par inspiration que pour pallier aussi à des difficultés financières. Avec l'âge, il reçoit de plus en plus le besoin aussi d'affirmer l'identité de la musique française et signe ses œuvres Debussy, musicien français. Il est mort d'un cancer en mars 1918 à Paris. Je vous propose d'écouter dans quelques instants Printemps, sa suite symphonique pour orchestre, piano et chœur. Elle fut composée à la Villa Médicis à Rome. Alors, qu'est-ce que la Villa Médicis à Rome ? Elle a été fondée il y a très longtemps par Louis XIV. L'Académie de France à Rome est un établissement français installé depuis 1803 à la Villa Médicis, villa du XVIe siècle, entourée d'un parc de 7 hectares et située sur le mont Pincio, au cœur de Rome. Établissement public national, relevant du ministère de la Culture, l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis, remplit aujourd'hui 3 missions complémentaires. Elle accueille des artistes, des créateurs et créatrices, historiens, historiennes de l'art de haut niveau, en résidence pour des séjours longs, d'une durée d'un an ou des séjours plus courts. Elle est là aussi pour mettre en place une programmation culturelle et artistique qui intègre tous les champs des arts et de la création et qui s'adresse à un large public. Elle est là aussi pour conserver, restaurer, étudier et faire connaître au public son patrimoine bâti et paysager, ainsi que ses collections. Donc, Claude Debussy était à la Villa Médicis. Et l'Académie des Beaux-Arts jugea ainsi la composition de son œuvre « Printemps » que nous allons écouter. « Monsieur Debussy ne pêche assurément pas par la platitude ni par la banalité. Il a, tout au contraire, une tendance prononcée à la recherche de l'étrange. On reconnaît chez lui un sentiment de la couleur musicale dont l'exagération lui fait facilement oublier l'importance de la précision du dessin et de la forme. Il serait fort à désirer qu'il se mît en garde contre cet impressionnisme vague. » Vous voyez, ils n'étaient pas très tendres avec lui. Et pourtant, à notre époque, vraiment, c'est pas choquant et on trouve ça vraiment très beau. Alors je vous propose un extrait du Printemps de Claude Debussy. Thank you. Eh bien, vous êtes sur Glissando, toujours avec Claude Debussy, avec cette magnifique suite symphonique qui s'appelle Le Printemps. Nous avons entendu le premier mouvement, et voilà le deuxième mouvement. Et c'est l'orchestre de Cleveland, dirigé par Pierre Boulez. Et c'est sur cette magnifique musique que nous nous quitterons et que je vous retrouverai, j'espère, la semaine prochaine. À bientôt!